Neuvième épisode. Rosie, voleuse de chèques. Chapitre 1er. Une soirée mouvementée. Un petit restaurant italien, l'Albergo Reale, situé dans la partie la moins animée de l'interminable rue de Californie à San Francisco, venait de voir partir ses derniers clients. La salle, éclairée par une seule lampe électrique, était déserte. Le patron, un obèse et facétieux napolitain, que les habitués avaient plaisamment surnommé le signor Chicchirinello, somnolait à son comptoir décoré de drapeaux américains et italiens, auxquels s'associaient des guirlandes de piments rouges et des chapelets de saucissons de Milan et des mortadelles de Bologne. Le restaurateur fut brusquement tiré de sa somnolence par l'arrivée d'un très jeune homme, vêtu avec une élégance criarde qui, presque sans faire de bruit, venait de pousser la porte de la rue. « Bonsoir, signor, » dit gravement le nouveau venu. « Bonsoir, Mr. Dad. Rien de nouveau ?»« Rien du tout. Hâtez-vous. Il y a déjà belle et nombreuse compagnie à l'intérieur. »« Des gens sérieux ?»« Tout ce qu'il y a de sérieux. De gros éleveurs de moutons du Sacramento, un marchand de blé, deux riches chinois, un Canadien du retour du Klondike. Le plus pauvre a la ceinture gonflée de banknotes, de piastres ou de poudre d'or. Il y a même des traders océaniens avec des perles plein leurs poches. C'est trop beau pour que ce soit vrai, fit Dad en allongeant familièrement une tape sur la bedaine du Napolitain. Toujours aussi menteur, signor Chicchirinello. Vous allez bien voir. Qu'est-ce qui tient la banque? Cleveland, comme toujours. Le damné filou! Je croyais que vous deviez le flanquer à la porte. Il a promis de ne plus tricher. Au fond, ce n'est pas un mauvais diable, puis... Dites que vous fadez ensemble. Mais ce soir, je vous préviens que je ne suis pas disposée à me laisser rafler mes dollars. Je vais l'avoir à l'œil, votre Cleveland. Le signor Chicchirinello ne répondit à cette vigoureuse sortie que par un sourire. C'est bon, grommela Dad avec mauvaise humeur. Et rompant brusquement l'entretien, il s'engagea dans la cage de l'escalier située au fond de la salle. Sur le palier, un grand noir, affublé d'une vieille livrée bleue aux galons ternis et verts de grisé, reçut sans mot dire les $5 que Dad lui glissait dans la main et lui ouvrit une porte renforcée de plaques en fer, de l'autre côté de laquelle s'entendait un vacarme de discussions et de jurons proférés dans toutes les langues. Dans une vaste pièce, dont les fenêtres étaient pourvues de volets matelassés, une cinquantaine de personnes, assises ou debout, entouraient une longue table recouverte d'un tapis rouge et sur laquelle s'amoncelaient l'or et les billets de banque. En dépit de la loi de tempérance, un noir faisait circuler un plateau chargé de verres de whisky et de bouteilles de champagne que les joueurs assoiffés devaient payer séance tenante au prix fabuleux de $5 le verre de whisky et de $20 la bouteille d'un champagne suspect. Au centre de la table, un personnage d'athlétique carrure, le croupier Cleveland, remarquable par ce teint plombé et ce regard vitreux qui caractérise les joueurs de profession, taillait une banque de montée. Ce jeu, proche parent du lansquenet, consiste à étaler d'abord sur le tapis une carte pour le banquier, puis une autre carte pour le joueur. Le retour de l'une des cartes désigne le gagnant. On tire les cartes de dessous le jeu et non de dessus, comme on le fait en France. Dad serra la main de quelques connaissances et remarqua avec satisfaction que le signor Chicchirinello, bien que hâbleur de nature, n'avait pas cette fois trop exagéré en parlant des riches étrangers que les rabatteurs du tripot avaient attirés ce soir-là par l'alléchante perspective de boire de l'alcool en dépit de la police, tout en gagnant une fortune. Mêlés aux professionnels, il y avait là un certain nombre de fermiers, de marins, de cow-boys ou de prospecteurs, dont le teint bruni par le soleil faisait un étrange contraste avec les faces hâves et enfiévrées des joueurs. Une brume épaisse, due à la fumée des cigares, planait sur l'assemblée et rendait l'atmosphère à peine respirable. Après avoir tiré de sa poche quelques aigles d'or, Dad s'était assis à côté d'un gentleman d'une quarantaine d'années, auquel un smoking de bonne coupe, un plastron de chemise éblouissant et orné de boutons en diamant, donnait un certain air de respectabilité. Il avait devant lui un tas de banknotes assez impressionnants, et il jouait avec la mine détachée de quelqu'un auquel il importait peu de perdre ou de gagner. En s'asseyant, Dad, qui se piquait de bonne manière, s'excusa et salua son élégant voisin. Tous deux échangèrent un regard, puis, avec une certaine surprise, se considérèrent plus attentivement. Chacun d'eux, en cet instant, avait l'impression d'avoir déjà vu l'autre. « Gentlemen !» criait le croupier d'une voix cassée par l'alcool. « Faites vos jeux !» Tout en faisant fort ce geste et donnant de la voix pour chauffer la partie, Cleveland, par une maladresse voulue, laissa savoir la carte du dessous à la grande satisfaction des joueurs qui misèrent en conséquence. Dad et son voisin firent comme les autres et gagnèrent. Au coup suivant, le même fait se reproduisit. Cleveland laissa encore voir la carte du dessous et perdit. « Gentlemen, faites vos jeux !» reprit-il impassible. Et cette fois encore, par la même inadvertance calculée, il laissa voir la dernière carte du paquet. « Je vais doubler ma mise !» dit le joueur au smoking. « Moi, je ramasse mon gain !» lui répondit Dad à demi-voix. « Gardez-vous bien de jouer cette fois-ci. C'est un conseil d'amis. Vous allez voir quelle rafle !»«
Non, merci, mais je joue quand même. C'est la dame qui va sortir. Et j'ai le roi !»
Les autres joueurs avaient fait le même raisonnement. Alléchés par les deux coups précédents, ils doublaient et triplaient leur mise, vidaient sur le tapis le fond de leur portefeuille et de leur ceinture.
« Gentlemen !» cria Cleveland. « Le jeu est fait, rien ne va plus !»
Il y eut quelques secondes d'un silence profond. On eût entendu voler une mouche. Tous les cœurs battaient, toutes les respirations semblaient suspendues, tandis que les regards s'attachait au doigt agile du croupier. Très calme, Cleveland tira la carte.
« Un roi !» dit-il froidement.
Au milieu de la consternation générale, il allongea le râteau d'ivoire et commença à rafler les tas d'or et de banknotes. Mais le voisin de Dad ne l'entendit pas ainsi. Il se leva furieux et arracha le râteau des mains de Cleveland.
« Voleur ! » hurla-t-il. « Laisse cet argent ! Tu as fait filer la carte ! C'était une dame qui devait sortir. Tout le monde l'a vu.
« Oui, oui, voleur !» firent à l'unisson les joueurs exaspérés.
20 points menaçants se tendirent vers le croupier. Mais Cleveland n'était pas homme à se laisser intimider. D'un geste rapide, il avait pris dans la poche de son veston un pistolet automatique et mettait en joue le voisin de Dad.
« Que personne ne bouge !» déclara-t-il. « Le premier qui touche à l'argent est un homme mort !»
Tout aussi prompt de gestes que Cleveland lui-même, son adversaire avait déjà lui aussi le Browning au poing.
« Tirez premier !» murmura Dad. « Ne vous laissez pas prévenir !»
Les deux coups partirent en même temps. À l'épaule fracassée, Cleveland s'affaissa en jurant. Son ennemi était indemne. La balle, qui devait l'atteindre, avait troué le mur à la hauteur où se trouvait sa tête une seconde auparavant.
« Voilà pour t'apprendre à ne pas tricher » cria-t-il haineusement à son adversaire hors de combat.
Les deux coups de feu avaient donné le signal d'une horrible bagarre. Tous les joueurs s'étaient rués sur les enjeux et remplissaient leurs poches d'or et de billets au milieu des cris et des vociférations. Les domestiques noirs se battaient contre deux marins qui essayaient d'éteindre l'électricité. Ils y réussirent enfin. Alors, la bataille se poursuivit dans les ténèbres. La table de jeu fut renversée. Cleveland, qui poussait des gémissements lamentables, fut piétiné. Dad avait gardé un sang-froid admirable. Il fut le premier à faire main basse sur une liasse de banknotes qu'il guignait depuis longtemps. Puis, se tournant vers son voisin qui, le Browning au poing, demeurait indécis.
« Faites comme moi !» lui conseilla-t-il. « Et filons, pendant qu'il est encore temps. C'est une histoire qui ne peut que mal finir, surtout pour vous. »
L'autre s'empressa de suivre cet avis plein de sagesse. Les deux nouveaux amis, auxquels personne n'avait songé à barrer le passage, se trouvèrent au rez-de-chaussée dans la salle du restaurant avant qu'aucun des joueurs fût descendu. Le signor Chicchirinello, toujours installé à son comptoir, leur demanda avec inquiétude si l'on n'avait pas joué du revolver.
« Oui !» expliqua Dad pendant que son compagnon gagnait lentement la porte de la rue. « Cleveland a reçu une balle. On l'a pincé en train de faire sauter la coupe. Je vous l'avais bien dit, vous n'auriez que des désagréments avec lui. » « J'ai horreur de ces histoires-là. Au plaisir, signor !» Sans répondre aux questions du Napolitain affolé, Dad avait à son tour gagné la rue de Californie, où son compagnon l'attendait impatiemment. Le quart du funiculaire arrivait. Ils se hissèrent sur une plateforme, très heureux de s'éloigner aussi vite que possible du théâtre de leurs exploits.
« Une bonne soirée !»
fit Dad pour amorcer la conversation, pendant que le quart dégringolait à toute vitesse la pente vertigineuse de California Street.
« Je l'ai servi, hein, le croupier. Ça n'a pas manqué d'excitement. »
Puis, changeant brusquement de ton. « Mon jeune ami, vous m'avez été sympathique du premier coup.
Je pourrais vous dire la même chose.
J'aurais dû vous écouter quand vous me conseilliez de ne pas jouer. Mais permettez-moi une question. Je suis persuadée que je vous ai déjà vu. J'ai connu chez un de mes amis, le fameux docteur Klaus Christian, un certain Dad qui vous ressemblait comme deux gouttes d'eau.
Voilà qui est curieux. J'étais en train de me demander si vous n'étiez pas un certain Toby Crogan.
Tais-toi donc, animal. Il y a des voyageurs qui nous écoutent.
Il a eu son heure de célébrité,
continua Dad imperturbablement. Les deux bandits échangèrent en riant une poignée de mains. Dans cette même ville de Frisco, reprit Crogan avec une certaine emphase, j'ai joué pendant quelque temps un rôle de première importance.
Je suis au courant. Parlons sérieusement. Tu as réussi à t'évader?
Pas du tout.
Je suis sorti il y a 15 jours de la prison des tombes avec des papiers parfaitement en règle.
Et comme Dad avait un geste de surprise.
C'est tout simple. Le feu a pris dans l'intérieur de la prison. Il paraît que je me suis distingué au cours du sinistre. J'ai sauvé plusieurs personnes, ce qui m'a valu une remise de peine. Tel que tu me vois, je suis libre comme l'air, et je ne dois rien à personne. Dès que j'étais dehors, je n'ai eu rien de plus pressé que de me rendre à Frisco. Ça a été plus fort que moi. Ce n'est peut-être pas très prudent.
Toby haussa les épaules. Faut-il que je te répète, fit-il, que je ne dois rien à personne. Le docteur n'est plus ici, et c'est le seul homme dont j'ai peur. D'ailleurs, tu as dû remarquer que mes cheveux et ma moustache ont passé du brun au blond. Pendant cette intéressante conversation, le car avait atteint le centre de la ville. Les deux bandits descendirent.
« À propos !» demanda brusquement Dad. « Tu es toujours l'ennemi du docteur ?»«
Non, » répondit Toby Crogan après une minute d'hésitation.
« Je lui en ai voulu beaucoup quand il m'a livré à John Jarvis, mais en réfléchissant, j'ai compris que c'était moi qui avais eu tort. Klaus Christian est un homme avec lequel il ne faut jamais entrer en lutte. Il est toujours le plus fort. » Je reconnais sa supériorité et je ne demande qu'à faire la paix avec lui.
Je t'y aiderai. Si tu avais été l'ennemi du docteur, tu aurais été le mien.
Actuellement, il est au Mexique, où il dirige une affaire de mine. Il a des projets grandioses.
C'est vraiment un homme de génie.
Tu n'aurais pas dû le quitter puisque tu as tant d'admiration pour lui.
Et je ne l'ai pas quitté. C'est par son ordre que je suis à San Francisco, où je surveille certaines gens et où, par ses relations, il m'a procuré en attendant mieux un emploi dans une banque.
Et ça, par exemple, murmura Toby avec stupeur. C'était pas tant.
Et c'est comme ça. Tu sais que dans tous les grands établissements financiers, on photographie sans qu'ils s'en doutent les clients qui viennent toucher un chèque de quelque importance. C'est moi qui suis le photographe chargé de ce soin.
Et dans quelle banque?
Ça par exemple, je te le donne en 1000. Je suis photographe attaché à la Mexican Mining Bank, que dirige avec tant de compétences l'honorable Monsieur Rabbington.
Qu'est-ce que tu dis de cela?
Moi, je dis que c'est un comble, balbutia Toby. Le docteur est décidément un maître homme. Ils étaient arrivés dans Montgomery Street, devant une façade brillamment illuminée, au-dessus de laquelle se lisait en lettres de feu, aux couleurs incessamment renouvelées, au fandango, Select Dancing. Toby s'arrêta.
« À nous entrons ?» demanda-t-il.
« Viens avec moi. J'ai quelqu'un à voir ici. »«
Ça va, mais tu ne m'as même pas dit comment tu t'appelles maintenant. »«
Je suis pour le moment Monsieur Walker. » Propriétaire de terrain dans l'Arizona, de passage à Frisco pour ses affaires.
Je suis très riche.
Surtout depuis ta visite chez le signor Kikirinello, s'écria Dad en pouffant de rire et en se tapant sur les cuisses avec un geste qui n'était rien moins qu'aristocratique.
Tiens-toi donc un peu mieux, dit sévèrement Toby, ou je serai forcé de me séparer de toi. Il ne vient dans cet établissement que des gentlemen et des ladies appartenant au meilleur monde.
« Ça va, ça va !» grommela Dad avec une intonation canaille.
Il refit pourtant devant une des glaces extérieures le nœud de sa cravate et cacha ses mains, dont les ongles n'étaient pas précisément irréprochables, sous de superbes gants couleur orange. Graves comme deux diplomates, Dad et Toby
jetèrent négligemment chacun une aigle d'or au contrôle et pénétrèrent dans un vaste hall où une foule étincelante et parée se trémoussait aux accents d'un jazz band enragé. Tout autour de la salle, dans des cabinets formés par des mattes de fleurs et de plantes vertes, des couples soupaient par petites tables. Dead n'avait jamais été à pareille fête. Dès le seuil, il était déjà grisé par le vertige des danses, affolé par les capiteux parfums des corbeilles de magnolia, de jasmin, d'orchidées et de roses, mariés aux délicats effluves qui s'exhalaient des chevelures et des chairs nues. « On pourrait souper, » proposa Toby. « C'est moi qui t'invite. » Dad accepta avec enthousiasme et découvrit tout de suite une table libre. Il venait à peine de s'asseoir lorsque Toby le quitta brusquement pour rejoindre une adorable jeune fille qui venait d'entrer dans le dancing avec plusieurs amis. L'ex-pensionnaire de la prison des tombes s'inclina devant la jeune fille avec une correction parfaite et effleura de ses lèvres la petite main qu'on lui tendait en souriant. Dad l'admirait de loin. « N'y a pas à dire, » songeait-il avec une certaine mélancolie. « Ce pauvre-là a tout du vrai gentleman. Il a un chic, une désinvolture que je n'attraperai jamais. »« Me ferez-vous l'honneur de danser avec moi, chère Miss Rosie ?» demanda Toby. « Pas aujourd'hui. J'attends mon fiancé d'une minute à l'autre. Certes, il ne me ferait aucune observation, mais je sais qu'il serait peiné. »« Votre fiancé est bien heureux, » murmura Toby avec tristesse. « Vous n'êtes pas raisonnable, Monsieur Walker, » dit Miss Rosie avec un sourire plein de bonté. « Vous savez bien que j'ai promis ma main au capitaine Rampal, que j'aime depuis mon enfance. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Je vous l'ai maintes fois répété avec ma franchise habituelle. Vous perdez votre temps. Vous m'êtes certes très sympathique. Contentez-vous de rester pour moi un excellent camarade. Au revoir, Monsieur Walker. Il faut que je vous quitte. » « Au revoir, cruelle Rosie. » dit Toby, moitié souriant, moitié fâché. Et il retint un peu plus longtemps que ne l'eussent permis les convenances la main que lui tendait Rosie en prenant congé. Il regagna silencieusement sa place, la mine préoccupée. « Ah, ça !» s'écria Dad, qui avait suivi de l'œil toute cette scène. « Tu es amoureux sans espoir, à ce que j'ai cru deviner. »« C'est vrai. Cette Miss est charmante. Je n'ai jamais vu d'aussi beaux yeux bleus, d'aussi admirables cheveux d'un blond doré. » Un sourire aussi doux, des épaules d'une aussi éblouissante blancheur. Ce que tu ne sais pas, interrompit Toby Croghan, d'un ton flegmatique, c'est que Miss Rosie Grice a 100 000 $ de dot et 3 ou 4 fois plus à la mort de son père, un des plus riches shipbrokers de la ville de San Francisco. Malheureusement, elle est folle de son fiancé, le capitaine Martin Rampal, une espèce d'ours canadien, propriétaire d'un des paquebots qui font le service avec Vancouver et la côte du Klondike. Dad ne répondit pas tout d'abord. Il se grattait la tempe, en proie à une méditation silencieuse. « Que dirais-tu » fit-il tout à coup. « Si je te faisais épouser Miss Rosie ?»« Je dirais que ce n'est pas possible. Jamais elle ne rompra avec son Canadien. »« Elle t'épousera si je le veux, » affirma Dad avec un accent de conviction qui impressionna Toby. « Comment feras-tu » demanda-t-il. « J'en sais rien encore, mais je trouverai un moyen. » Et il reprit au bout d'un instant. « Je la connais aussi, moi, cette belle blonde, au moins de vue. »« Tiens, c'est curieux. »« Non, c'est une cliente de la Mexican Mining Bank. C'est à nos guichets que je l'ai aperçue. Mais j'y songe. Il ne faut pas que je reste là. Si elle me voyait en ta compagnie, ça bouleverserait tous nos projets. »« Mais elle a dû déjà t'apercevoir à la banque. »« Non, elle ne me connaît pas. Mais moi, je la connais. C'est une supériorité que j'ai sur elle. »« Quand je prends mes photographies, c'est à l'insu des clients, installés dans un cabinet adjacent à la caisse. Je les vois sans qu'ils me voient. Tu pourras m'apporter une photographie de Rosie ? Ce n'est pas la photographie que je veux t'offrir, mais bien l'original. Tiens, décidément, je crois que tu épouseras Miss Rosie. Je viens d'avoir une idée tout à fait épatante. Comment t'y prendras-tu ? Ah, ça c'est mon secret. Filons vivement. Je vois les amoureux qui se dirigent de notre côté. Je vais me faufiler dans la cohue et sortir le premier. Les deux complices se retrouvèrent 5 minutes plus tard. Quant à Miss Rosie, tout au bonheur de s'appuyer au bras de celui qu'elle aimait, elle n'avait même pas remarqué Dad. Chapitre 2. Désespoir d'amour. Après un long voyage au Texas et ensuite au Mexique, le détective John Jarvis était de retour à San Francisco depuis quelques jours. Son ami, M. Robinson, et la pupille de ce dernier, Miss Elsie Gottesgore, étaient revenus en même temps que lui et s'étaient réinstallés à la Villa des Cèdres, la luxueuse habitation qu'ils possédaient aux environs de la ville. Les détails de la fête grandiose qu'il y avait donnée à l'occasion de son rajeunissement par le fameux docteur Klaus Christian, a disparu depuis, étaient encore dans toutes les mémoires. Le banquier avait lieu d'être satisfait. Le mystérieux traitement qu'il avait subi l'avait véritablement ramené de 60 à 40 ans. Il se trouvait nanti d'une puissance de travail, d'une énergie, d'un équilibre physique et intellectuel qu'il ne s'était jamais connu. Sa fortune s'accroissait de jour en jour. Prudemment étudiée, sagement conduite, ses affaires de mine donnaient d'énormes dividendes. Enfin, la santé de Miss Elsie, qui lui avait causé de terribles inquiétudes, paraissait entièrement rétablie. À la suite d'un long séjour au château d'Easy's Lodge, en Louisiane, la jeune fille avait retrouvé la gaieté, l'appétit et le sommeil, et ne se souvenait plus que, comme d'un lointain cauchemar, de la douloureuse captivité que lui avait fait subir Klaus Christian. Le bruit courait que très prochainement, Elsie serait fiancée au fameux détective John Jarvis, pseudonyme sous lequel se cachait le milliardaire Todd Marvel. Ce dernier, depuis son retour, s'était livré à une besogne formidable. Deux ou trois fois par semaine, il recevait d'Europe un courrier si volumineux qu'il n'avait plus guère le temps de mener à bien ses enquêtes criminelles pour lesquelles il éprouvait une véritable passion. Un matin, qu'il se livrait à l'examen d'une liasse de documents venus de Paris, dans le cabinet de travail de sa maison de Mateo Street, le Canadien Floridor pénétra brusquement dans la pièce. Mais voyant le détective absorbé par son travail, il s'assit dans un coin d'un air maussade. Un quart d'heure se passa ainsi. Dans le silence de la vaste pièce, on n'entendait que le bruit des feuillets, fiévreusement tournés, ou le grincement du stylographe. « On ne voulait pas que je vous donne un coup de main ?» demanda enfin le Canadien en désespoir de cause. « Je te remercie, j'en ai fini pour ce matin. J'ai mal à la tête. Mais qu'as-tu donc? Tu as l'air préoccupé. Je vais vous dire carrément la chose. Un de mes compatriotes, un de mes meilleurs amis, un brave Canadien, le capitaine Martin Rampal se trouve réduit au désespoir. J'ai pensé que vous ne refuseriez peut-être pas de venir à son aide. Tu as eu raison. Quoique je sois très prise en ce moment, je ferai l'impossible pour être agréable à ton ami. De quoi s'agit-il? Sa fiancée a rompu brusquement avec lui, de la façon la plus inexplicable. Il y a dans cette rupture des côtés mystérieux qui me donnent beaucoup à penser. Mais elle vous expliquera tout cela beaucoup mieux lui-même. Il est dans le salon d'attente. Voulez-vous le voir? Mais certainement. Le capitaine Martin Rampal entra. Il paraissait âgé de 25 à 28 ans. De sa physionomie ouverte émanait une impression de force et de loyauté. Ses yeux du bleu vert des mers du Nord regardaient bien en face et son sourire un peu naïf faisait un singulier contraste avec ses énormes biceps et la carrure de son torse vêtu de gros draps bleus. Ce personnage fut tout de suite sympathique à John Jarvis. Capitaine, lui dit-il. « Mon ami Floridor me dit que vous avez de gros ennuis. »« Je suis le plus malheureux des hommes, » murmura le marin en prenant un siège. « Et ce qu'il y a de plus désespérant, c'est que je ne comprends rien, absolument rien à ce qui m'arrive. » »« Nous allons tâcher d'éclaircir tout cela, » fit le détective avec un bienveillant sourire. « Mettez-moi d'abord au courant des faits. »« Ce ne sera pas long. Depuis des années, je suis reçu à chacun de mes voyages chez M. et Mme Grice, des amis de vieille date qui me traitent comme leur fils. » Grice, n'est-ce pas le shipbroker du quai de Chine? Précisément. Je continue. J'ai 28 ans. Rosie en a 19. Je l'ai fait sauter tout enfant sur mes genoux. Notre mariage était convenu depuis des années. Nous nous adorions, il n'y a pas trois jours. Et je suis sûre, ajouta l'infortuné capitaine dont les yeux se mouillèrent de larmes, que, même après ce qui s'est passé, Rosie me garde au fond du cœur une grande affection. On ne m'ôtera pas de l'idée qu'elle ne m'a rendu sa parole que contrainte et forcée. Cela ne viendrait pas des parents? Mais non, ils sont furieux contre Rosie. Son coup de tête dérange des projets depuis longtemps caressés. Ils sont d'autant plus mécontents que l'homme qu'elle a choisi du jour au lendemain pour me remplacer est une sorte d'aventurier qui se dit propriétaire dans l'Arizona, mais sur lequel on n'a pu recueillir que de vagues renseignements. Monsieur Rice a refusé de le recevoir, mais Rosie a juré qu'elle l'épouserait quand même. Elle le fera. Je la connais. Elle est têtue comme le diable quand elle s'y met. Si elle l'aime,
Si c'est une de ces toquades, comme il en prend parfois aux jeunes filles les plus sérieuses, nous n'y pourrons rien, je le crains.
Mais le plus fort, s'écria le marin d'une voix tonnante, c'est qu'elle ne l'aime pas. J'en mettrai ma main au feu. Je les ai vues ensemble au dancing. Elle paraissait mortellement triste. Il y a mieux. J'ai une explication avec elle, ce Walker. Je dois dire entre parenthèses que c'est un gentleman d'apparence très correcte. En ma présence, il lui a dit qu'il ne voulait nullement faire violence à ses sentiments, et que pour peu qu'elle eût des regrets de m'avoir quittée. Et c'est elle qui, tout en colère, a insisté en répétant sur tous les tons que sa décision était irrévocable.
Voilà en effet une étrange histoire. Nous allons tâcher de la tirer au clair.
Que faudra-t-il que je fasse ? Demanda le capitaine un peu consolé.
Ne vous occupez de rien. Faites seulement en sorte que, d'aucune façon, M. Grice n'accorde son consentement à ce mariage.
Oh, pour cela, je suis bien tranquille. M. et Mme Grice sont exaspérés contre Rosie.
Une auto venait de stopper en face de la maison. Le capitaine prit congé, reconduit par Floridor qui acheva de lui remonter le moral. Le Canadien revint quelques minutes plus tard dans le cabinet de travail.
Miss Elsie nous envoie chercher par l'auto pour déjeuner avec son tuteur, dit-il.
C'est vrai, il y a 2 jours que je ne l'ai vue. Elle va croire que je l'oublie. Au moins, ne la faisons pas attendre.
Les deux détectives sautèrent dans la voiture, non sans avoir échangé quelques paroles avec le chauffeur, qui n'était autre que le noir Peter David, devenu depuis l'heureux époux de Betty, la chambermaid de confiance de Miss Elsie. Grâce à l'habileté du noir, le trajet ne prit guère que 5 minutes. Elsie, plus charmante que jamais dans une toilette du matin en crêpe de Chine, brodée de dentelles anciennes, vint au-devant de ses invités au seuil de la petite salle à manger d'été qui donnait sur le parc de la Villa des Cèdres et dont le banquier réservait l'usage à ses intimes. Tout, dans cette pièce assez exiguë, respirait la gaieté et la joie de vivre. Le soleil, pénétrant par les fenêtres larges ouvertes, avec le ramage des oiseaux et le parfum du sous-bois, faisait étinceler sur la nappe de soie damassée ornée d'un chemin de violettes et d'orchidées, les couverts de vermeil, les cristaux aux vives couleurs et le service de table en ancienne porcelaine du Japon à dessin d'or sur fond d'azur. Partout, des gerbes de fleurs débordaient des vases de Chine, bariolés de dragons fantastiques et des jardinières de Saxe aux tons si tendres et si vaporeux.
Vous nous délaissez donc ? Demanda la jeune fille à John Jarvis.
Ses beaux yeux, de l'azur sombre et profond du lapis lazuli, s'efforçait d'exprimer un mécontentement que démentait le malicieux sourire de la bouche.
« Ne croyez pas que je vous néglige, » répliqua vivement le détective. « Vous savez que le travail qui m'absorbe n'a qu'un but, hâter la date de nos fiançailles. C'est encore à vous que je pense, en essayant de résoudre l'énigme compliquée à laquelle je me suis attachée. »
« Et la besogne avance ?»«
Pas aussi vite que je le voudrais, » murmura-t-il en étreignant la main de la jeune fille avec une ardeur passionnée.
Elle répondit à cette étreinte par un sourire d'une caressante langueur. Puis, tous deux demeurèrent plongés dans un silence d'une mystérieuse douceur. Floridor et le banquier se taisaient aussi, mais pour des raisons beaucoup moins platoniques. Doués tous deux d'un remarquable appétit, ils faisaient disparaître avec une louable émulation les huîtres, les crevettes, le caviar et d'autres hors-d'œuvre placés à leur portée dans des raviers en vermeil délicatement ciselés. La conversation ne prit une réelle animation que vers la fin du repas. John Jarvis raconta, sans donner les noms, bien entendu, la mésaventure du capitaine canadien, et demanda ensuite à Elsie ce qu'elle en pensait.
« Je suis persuadée, répondit-elle, que cette fiancée qui vous semble si capricieuse obéit à quelques mobiles pleins de délicatesse. Peut-être remplit-elle un devoir impérieux en accordant sa main à cet homme qu'elle n'aime pas. Qui sait si ce n'est pas même par excès de tendresse pour son premier fiancé qu'elle se sacrifie ainsi ?
Vous me ferez plaisir en me donnant la clé de cette énigme.
Quand je l'aurai résolue, ce qui n'a pas l'air facile.
J'ai moi aussi une histoire à vous raconter, déclara tout à coup Rappington, mais ce n'est pas une histoire d'amour. Voici les faits. Une jeune fille de la meilleure société a réussi à escompter un faux chèque de $3,000 à nos guichets, et nous n'aurions sans doute pas réussi à la pincer sans notre service photographique. L'habitude que j'ai prise, sur votre conseil, de faire photographier à leur insu tous ceux qui viennent toucher une somme de quelque importance, m'a déjà rendu d'énormes services.
« Et comment l'affaire s'est-elle terminée ?» demanda impatiemment Miss Elsie.
« Le mieux du monde. La voleuse a dû indemniser la personne lésée, car celle-ci a retiré sa plainte.
« Je croyais, » fit le détective, « que même dans ce cas, la banque poursuivait d'autorité pour le principe.
C'est exact. Nous y sommes tous intéressés. Tout le monde se sert de chèques. Le jour où ceux qui en fabriquent de faux ne seraient pas rigoureusement poursuivis, s'en serait fait du commerce bancaire. Dans le cas qui nous occupe, le plaignant, sans doute par complaisance, a reconnu pour sienne la signature fausse. Il n'y avait plus moyen d'effectuer des poursuites. Pendant tout ce récit, John Jarvis avait montré une certaine agitation. « Peut-on savoir le nom de la jeune fille ? » demanda-t-il au banquier.
« Je ne sais pas trop si je dois... »
« Vous avez promis le secret, je suppose. Puis ce n'est ni Miss Alcine ni Floridor qui bavarderont, et moi j'ai un grand intérêt à connaître ce nom. » La coupable se nomme Miss Rosie Grice, et c'est la fille d'un riche shipbroker. » John Jarvis et Floridor se regardèrent, en proie tous deux à une profonde stupeur. « Parions, dit Miss Alcine, que cette Rosie est la même qui a si brusquement abandonné son fiancé. Vous avez deviné juste ? Et grâce aux renseignements que vient de me fournir M. Robinson, j'ai fait un grand pas dans la découverte de la vérité. Mon instinct de femme ne me trompait pas, s'écria Miss Elsie avec feu. Pour renoncer à l'homme qu'elle aime, cette malheureuse a dû subir une affreuse contrainte morale. Je jurerais qu'elle est innocente. Elle a dû tomber dans quelques pièges, et cette histoire est probablement plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Vous serez donc toujours aussi romanesque, interrompit brutalement le banquier. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Cette Miss Rosie est une voleuse. Nous possédons sa photographie au moment où elle reçoit les banknotes du caissier. Tout cela est à examiner de près, déclara John Jarvis, au grand étonnement de Robinson. Eh bien, répondit-il, examinez tout ce qu'il vous plaira. Je vais, si vous le désirez, vous donner un mot pour le caissier en chef, qui vous fournira tous les éclaircissements désirables. Pour moi, je suis sûr que cette fille est une voleuse, et rien ne modifiera mon opinion. La discussion se poursuivit encore quelque temps, puis John Jarvis, muni de la recommandation promise, se transporta sans perdre un instant au bureau de la Mexican Mining Bank en compagnie de Floridor. Chapitre 3. Au trésor de la Bohème. Le célèbre détective et son secrétaire furent reçus avec le plus grand respect par le caissier, sitôt qu'il eut jeté les yeux sur le mot de M. Robinson, qui était moins une recommandation qu'un ordre, de raconter tout ce qu'il savait sur l'affaire. Il se mit avec empressement à la disposition des deux détectives, et pour être à l'abri de toute oreille indiscrète, il s'enferma avec eux dans son cabinet. De même que son père, commença-t-il, Miss Grice est notre cliente depuis plusieurs années. Chaque mois, elle vient toucher un chèque de faible importance et qui, croyons-nous, représente la pension qui lui est allouée par ses parents pour sa toilette et son argent de poche. Il y a 3 jours, elle se présenta comme d'habitude et toucha un chèque qui se montait, je crois, à 100 dollars. Mais 10 minutes plus tard, elle se présentait de nouveau, mais cette fois avec un chèque de 3 000 dollars qu'elle encaissa sans la moindre difficulté. « Quelle était la signataire du chèque ?» demanda John Jarvis. « Une Mistress Tiarca, dont les magasins de bijoux et de curiosités à l'enseigne des trésors de la Bohème se trouvent dans Market Street. » Miss Grice, qui aime beaucoup les bijoux anciens, est, paraît-il, une des clientes assidues de cette dame, qui a, d'ailleurs, en dépôt chez nous des sommes importantes. Miss Grice était à peine sortie qu'en confrontant la signature du chèque de 3 000 dollars avec d'autres de la dame Tiarca, j'eus des doutes sur son authenticité. Le détective, qui est spécialement attaché à l'établissement, fut prévenu par moi et, muni de la photographie de Miss Grice, prise à nos guichets, il se rendit au magasin de curiosités qui est à 2 pas d'ici. Par un hasard assez heureux, Miss Grice elle-même se trouvait dans le magasin quand il y entra. Une scène très violente se produisit alors. Madame Tiarca jurait n'avoir pas signé le chèque. Miss Grice affirmait qu'elle ne l'avait pas touché. Elle fut consternée quand on lui mit sous les yeux la photographie. Elle persistait cependant à nier en dépit de toute évidence. Quand on lui demanda ce qu'elle avait fait de l'argent, elle fondit en larmes. On la fouilla, elle n'avait sur elle que le montant du premier chèque de 100 dollars. On allait l'arrêter, quand survint un gentleman qui pria le détective et Madame Tiarca de patienter quelque peu. Le nouveau venu s'entretint quelques instants à voix basse avec la jeune fille. « Sauvez-moi, lui disait-elle, je vous épouserai. »« Je vous sauverai sans que vous ayez besoin de rien promettre, répondait-il. » Tout cela entremêlé de protestations d'innocence de la part de Miss Grice. Vous savez le reste. Le gentleman a désintéressé la plaignante et celle-ci a reconnu pour sienne la signature fausse. Vous rappelez-vous de quelle façon était habillée Miss Grice ? Je ne vois pas quelle importance peut avoir ce détail, mais je me souviens fort bien qu'elle avait un costume en surable clair et qu'elle était coiffée d'un chapeau de Panama très fin. Un chapeau d'au moins 500 dollars. Qu'elle portait rabattu sur les yeux, n'est-ce pas?
C'est vrai?
Mais qui a pu vous donner ce détail? Demanda le caissier avec surprise.
Personne. J'avais deviné, voilà tout. Pourriez-vous maintenant me montrer la photographie?
Très volontiers, la voici. Je l'avais gardée dans ma serviette.
John Jarvis tira de sa poche une forte loupe et examina pendant quelques minutes la photo avec une extrême attention, puis la passant au caissier.
« Voyez, lui dit-il, sur l'angle du chèque que tient la jeune fille, on aperçoit très nettement la moitié d'une signature, et c'est la signature Grice, et non la signature Tiarca qui devrait s'y trouver. Miss Grice a donc été photographiée au moment où elle présentait au guichet le chèque de son père, celui de 100 $.
« C'est impossible !» s'écria le caissier très ému. « On ne photographie que les bénéficiaires de chèques de plus de 1 000 $.
Et il n'y a pas d'erreur possible. Le garçon de bureau appelle à voix haute le chiffre de la somme, et c'est sur cet énoncé que se guide le photographe placé dans la pièce contiguë.
Convenez que, soit par erreur, ce que je ne comprendrais guère, soit intentionnellement, ce que je m'explique très bien, l'on a photographié Miss Grice au moment où elle encaissait une somme insignifiante, en négligeant de la prendre quand elle en encaissait une beaucoup plus importante. Voudriez-vous faire venir le photographe ?
Le caissier, tout troublé par cette série de constatations, appela un garçon. Celui-ci revint l'instant d'après en annonçant que le photographe était parti depuis 10 minutes. La caisse fermait en effet à 16 heures et il était 16h10.
« Vous le verrez demain, » fit le caissier.
« Je ne crois pas qu'on le revoie jamais, » murmura John Jarvis avec un sourire légèrement ironique. « Mais je vais vous demander encore quelque chose. Ce serait d'examiner les deux chèques. Et, s'il se peut, d'autres chèques signés de Mme Tiarca. »
Le caissier, qui commençait à craindre d'avoir commis quelque lourde erreur, s'empressa d'obtempérer à ce désir. Le détective reprit sa loupe, mais cette fois, son examen se prolongea pendant un long quart d'heure.
« J'ai remarqué 2 choses, conclut-il, et vous n'ignorez pas qu'on veut bien m'accorder une certaine compétence comme expert en écriture. La signature Tiarca, du chèque de 3 000, est tout ce qu'il y a de plus authentique. Les encres sont pareilles, mais la signataire a visiblement déformé son paraphe habituel pour laisser croire à un faux.
Deuxième remarque. La signature de Miss Grice, au bas de l'endo, quoique très habilement imitée, n'est pas la sienne. Concluez-vous-même.
À moins de supposer qu'une femme habillée comme Miss Grice ne soit venue toucher les 3 000 $ en signant le nom de cette dernière, et que le photographe ne soit complice,
vous y êtes. Voilà la vérité. Et c'est pour dissimuler ses traits que la voleuse a rabattu son panama sur ses yeux, comme j'ai deviné qu'elle avait dû le faire.
« Mais dans quel but tout cela ?» demanda le caissier absolument déconcerté.
« C'est ce que je vous expliquerai demain, » dit le détective en prenant congé. « Pour le moment, il importe que je suive la piste tant qu'elle est chaude. »
John Jarvis regagna l'auto qui les avait amenés et que conduisait Peter David. Celui-ci paraissait très ému.
« Savez-vous qui je viens de voir ? » s'écria-t-il. « Un des lieutenants les plus dévoués de Klaus Christian, celui qu'on appelait le petit Dead. Pourvu qu'il ne m'ait pas reconnu, il a traversé la rue à 2 pas de moi. »
« Quelle heure était-il ? »
« 16 heures juste. Dad a même regardé sa montre pour voir si elle était d'accord avec l'horloge électrique. Il sortait de la banque, par là. »
Et le noir montrait une petite porte réservée au personnel et surmontée de l'inscription « Entrée interdite au public. »
« Plus de doute !» murmura le détective. « Ce Ted et le photographe de la banque ne sont qu'une seule et même personne. N'importe où que j'aille, je suis condamné à rencontrer ce maudit docteur ou ces bandits. »
« Je voudrais bien que Ted ne m'ait pas reconnu, » répétait le noir sincèrement apeuré. « C'est le plus rusé petit drôle que j'ai jamais vu. Un vrai diablotin, capable de toutes les malices. Et avec cela, maigre comme un coucou et laid comme un singe. C'est lui qui autrefois aida le docteur à s'évader du train rapide pendant la traversée du Colorado. C'est encore lui qui nous empêcha de nous emparer de Klaus Christian. Soyez sûr que s'il avait réussi à entrer à la Mexican Mining Bank, c'était pour mener à bien quelques nouvelles canailleries. »
Floridor, que le détective avait envoyé téléphoner, revenait en ce moment. Il prit rapidement place dans la voiture.
« Où dois-je aller ? » demanda Peter David.
« 324 Market Street, et vivement. Nous arriverons peut-être assez à temps pour mettre le grappin sur ton ami Dad. »
« J'ai les renseignements que vous me demandiez, » interrompit le Canadien. «
L'inspecteur chef de la police s'est montré tout à fait aimable. La femme, Zulma Tiarka, installée à San Francisco depuis une dizaine d'années, est tzigane d'origine. Elle a eu autrefois de nombreux démêlés avec la justice. Elle passe pour avoir gagné une fortune considérable en servant de receleuse aux bandes de malfaiteurs qui, il y a quelques années, étaient les véritables maîtres de la ville. Plus qu'elle est riche et qu'elle possède un des plus beaux magasins de Market Street, elle affecte une grande respectabilité. Mais elle est quand même surveillée de très près, car elle continue, paraît-il, son ancien commerce en sous-main. Mais seulement quand il s'agit d'une affaire particulièrement lucrative.
Voilà qui est fort intéressant, et qui s'accorde parfaitement avec ce que je sais déjà.
Madame Tiarka, qui a beaucoup d'entrées gens et qui parle plusieurs langues, a réussi à obtenir la clientèle de beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes de la haute société. Miss Rosie fréquentait souvent son magasin. Enfin, comme beaucoup de ses pareils, Zulma Tiarka fait volontiers crédit à ses jolies clientes. Et même leur avance de petites sommes, remboursables bien entendu, à gros intérêts.
Tu ne m'as pas dit si elle était mariée ou veuve, si elle avait de la famille.
Tiarka est veuve. Elle a deux filles, l'une brune et l'autre blonde, toutes les deux d'une remarquable beauté.
L'auto stoppait en face d'un luxueux magasin bondé d'objets d'art de toutes les époques. La vitrine réservée aux bijoux était en raccourci un véritable musée de la parure féminine. Les colliers arrachés aux cendres de Pompéi ou aux sarcophages des pharaons y voisinaient avec les délicats filigranes de l'Inde et de l'Orient les lourds colliers barbares en or ou en argent forgé. Dans des coupes de jade ou d'onyx, c'était un ruissellement de bagues, de diadèmes, de ceintures, de bracelets, de pendentifs, de fibules, de boucles d'oreilles, de peignes, de médaillons, dont les mille prunelles de pierres précieuses attiraient invinciblement les regards des passantes par une sorte d'hypnotisme qui leur faisait involontairement ralentir le pas quand elles arrivaient en face de l'ensorcelante boutique. John Jarvis et Floridor furent reçus par Madame Zulma Tiarka elle-même, dont ils ne purent s'empêcher d'admirer l'allure imposante. Bien que ses cheveux fussent entièrement blancs et que la peau de son visage fût plus tannée que le cuir d'un vieux corbeau, elle gardait encore des vestiges d'une beauté qui avait dû être foudroyant. Très rapprochée, ses yeux noirs brillaient d'un éclat sauvage, et le sourire de sa bouche flétrie possédait encore un charme bizarre et captivant. Très droite, dans un ample peignoir de soie noire aux vastes plis, elle était parée de lourds pendants d'oreilles, d'un pesant collier et de frustres bracelets que John Jarvis reconnut pour ses primitifs bijoux que les Romanichels fabriquent eux-mêmes pour emparer leurs femmes avec le métal des pièces d'or volées.
« Vous désirez sans doute visiter mes collections » demanda-t-elle à John Jarvis avec un sourire d'une affabilité hautaine.
« Non, » répondit-il d'un ton sec. « Je suis détective et je désirais vous poser quelques questions au sujet de Miss Rosie Grice. »
« Je suis aux ordres de l'illustre John Jarvis, » fit-elle en ricanant. « Mais je crois qu'il serait préférable de laisser Miss Rosie tranquille. La pauvrette a commis une légèreté. À son âge, elle est pardonnable. Faire revenir sur l'eau cette sotte affaire causerait plus de tort que de bien à la réputation de cette jeune fille. »
Il y avait dans les paroles de Zulma Tiarka une ironie atroce qui exaspéra le détective. Son œil perçant venait de remarquer un superbe Panama tombé sous un meuble. Il résolut d'utiliser immédiatement la découverte qu'il venait de faire.
« Je connais la vérité. Ned, votre complice est sous les verrous. »
« Il n'y aurait pas longtemps alors, » répliqua-t-elle sans se décontenancer. « Vous essayez de m'influencer, vous n'y réussirez pas. Le brave jeune homme sort d'ici. Il est trop malin pour qu'il lui arrive jamais rien de fâcheux.
C'est lui qui vous a prévenu de ma visite ?
Ça se pourrait. Mais vous avez une singulière façon d'agir envers moi, qui, somme toute, me suis montrée assez indulgente pour empêcher votre protégé d'aller coucher en prison. Tout ce que vous direz ne changera rien au fait.
Miss Rosie est coupable. La preuve, c'est qu'elle a avoué et qu'elle a remboursé.
Sortez de là si vous pouvez.
Puis on a sa photographie.
Vous savez fort bien dans quelles conditions a été prise cette photographie.
J'en sais rien du tout.
Je sais, moi, que c'est votre fille qui, vêtue comme Miss Rosie, a touché le chèque de 3 000 $. Et tenez, voici le Panama à ruban bleu dont elle était coiffée et que les employés reconnaîtront.
Simple coïncidence. Tout le monde a le droit de porter un Panama et une robe bleue. Il n'y a aucune loi qui le défende.
Croyez-moi, je vous le répète, ne vous donnez pas tant de mal.
Et elle ajouta après avoir consulté le cadran d'une superbe horloge de boule en ébène incrustée de cuivre et d'écailles.
Surtout qu'à l'heure qu'il est, Miss Rosie est probablement mariée.
John Jarvis
contenait à grand-peine sa colère. Le persiflage de l'horrible vieille le mettait hors de lui. « Puisqu'il en est ainsi, je vous arrête. Je vais vous emmener en prison avec vos filles. Auparavant, je fais pratiquer ici une perquisition, qui sera, si mes renseignements sont exacts, tout à fait fructueuse. Floridor, ramasse ce chapeau, qui est une pièce à conviction, et va chercher des policemen. » Cette menace parut produire sur Zulmetyarka une certaine impression.
« Il faut au moins un prétexte pour arrêter les gens, » grommela-t-elle avec un peu moins d'arrogance.
« Votre fille a commis un faux en imitant la signature de Miss Rosie, » répliqua sévèrement John Jarvis.
« Et vous êtes complice. Vous avez accusé faussement une innocente. Vous et Ted avez ourdi toute cette machination pour forcer votre victime à épouser Walker. »«
Tout cela n'est pas prouvé, » reprit-elle. « Et d'ailleurs, vous n'avez pas qualité pour m'arrêter. » Vous allez avoir à l'instant la preuve du contraire. Et une fois que vous serez en prison, on trouvera moyen de vous délier la langue. » Et se retournant vers le Canadien qui, attentif à la discussion, n'avait pas encore bougé de place. « Dépêche-toi d'appeler les policemen. Nous allons commencer la perquisition. » Cette dernière phrase eut le don de mater l'entêté de Zigane.
« Laissez les policemen où ils sont, » murmura-t-elle en baissant la tête.
« Je vous dirai ce que je sais. Si vous me donnez votre parole d'honneur, de ne pas me causer d'ennui ni à moi ni à ma fille. Cela dépendra de votre sincérité. Vous ne serez pas poursuivi si vous dites la vérité, je vous le promets. Je ne sais pas grand-chose de plus que vous, d'ailleurs. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est Dad qui a tout combiné. Moi et ma fille n'avons fait que lui obéir. Il a d'ailleurs largement rétribué notre concours. » «
Ils ont donc de l'argent ? » «
Beaucoup. Je ne sais comment ça se fait. Tous deux ont en ce moment-ci les poches pleines de banknotes. Mais sachez-le bien, Miss Rosie n'aime nullement Walker. Si elle consent à l'épouser, c'est par reconnaissance, parce qu'elle considère comme un devoir envers sa conscience de tenir la promesse qu'elle a faite dans un moment d'affolement, quand elle se voyait sur le point d'être conduite en prison. » «
J'avais deviné tout cela, » fit le détective. « Mais pourquoi disiez-vous il y a un instant que Walker et Miss Grice étaient peut-être déjà mariés ?»«
Je ne parlais pas sérieusement. » »«
Vous cherchez à me tromper, je le vois. J'exige des aveux complets. » «
Quel terrible vous faites !» balbutia la Tzigane avec un sourire contraint. « La cérémonie n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais elle aura lieu demain matin, au petit jour. Dad ne sait pas encore que vous vous occupez de cette affaire, mais de l'endroit où il prend ses clichés, il vous a vu entrer à la banque et vous enfermer avec le caissier. Il a eu vent de quelque chose et a décidé de brusquer le dénouement. Où doit avoir lieu ce mariage ?»
Depuis qu'elle a rompu avec le capitaine Rampal, Miss Rosie est gardée à vue par ses parents. Ils l'ont même emmenée dans la villa qu'il possède à Cliff House, au bord de la mer, à 8 000 de San Francisco. C'est sur la plage même que doit avoir lieu la cérémonie. » «
Comment Miss Rosie fera-t-elle pour se soustraire à la surveillance de ses parents ?» «
Dad a parlé d'une embarcation où se trouverait un ministre. Il a même acheté 2 anneaux d'or, une Bible et un registre. Je n'en sais pas davantage. »
Silencieuse à son ordinaire, le Canadien avait assisté à cet interrogatoire en contenant à grand-peine sa colère.
« Qu'espère donc ces bandits ? » demanda-t-il enfin. « Ils ne pensent pas que nous allons les laisser faire. »
« Dad ne s'imagine pas, sans doute, » reprit John Jarvis, « que nous sommes au courant de toute l'affaire. Il suppose qu'une fois Rosie mariée, ses parents s'inclineront devant le fait accompli. Avec une jeune fille aussi loyale, aussi naïve, esclave de la parole donnée comme Miss Grice, leur projet, sans notre intervention, avait les plus grandes chances de succès. » « Il nous reste à savoir, » ajouta-t-il en se tournant vers la Tzigane, « où demeurent Dad et Walker. » Ils sont descendus au Star Hotel, dans le Kearney Street. » « Je me contente pour le moment de ces renseignements, » déclara le détective en se retirant. « Mais je vous préviens qu'à la moindre tentative de trahison de votre part, j'agirai énergiquement. Vous serez d'ailleurs surveillé de près. Je vous en avertis loyalement, jusqu'à ce que cette affaire ait reçu sa solution. » Sans perdre un instant, John Jarvis se fit conduire quai de Chine. Mais il ne trouva dans les bureaux du shipbroker qu'un employé occupé à terminer la correspondance urgente. Attaché depuis longtemps à la maison, ce dernier fournit au détective un renseignement intéressant. « La famille Grice, expliqua-t-il, menait à Cliff House une existence très retirée, où Miss Rosie n'avait d'autres distractions que le tennis, le croquet et d'autres sports du même genre, sans oublier la natation où elle était de première force. » Une fois sorti du bureau, le détective laissa éclater sa satisfaction. « J'en sais maintenant assez, » dit-il à Floridor. « Mon plan est fait. Tuarca a parlé d'un bateau. Rosie est excellente nageuse. Il ne faut pas être sorcier pour deviner le reste. De plus, je connais admirablement la topographie de Cliff House. Je pensais d'abord voir Monsieur Grice ce soir en allant à la villa. Réflexion faite, ma visite n'aurait pour résultat que de donner l'éveil aux bandits. Les deux détectives se rendirent dans un magasin d'équipement pour la grande pêche et y firent emplette de deux de ces peaux de phoque naturalisées dont se revêtent les chasseurs des régions polaires pour approcher des troupeaux d'amphibies sans éveiller leur défiance. Enfin, Floridor alla visiter le capitaine Martin Rampal et celui-ci insista pour faire partie de l'expédition qui devait délivrer Miss Rosie. Cela tombe d'autant mieux, expliqua-t-il, que la loutre de mer, une goélette qui appartient à un de mes amis, est actuellement mouillée à 1 mile au large de Cliff House. Le capitaine Morton et ses hommes seraient enchantés de nous donner un coup de main. Et si vous m'en croyez, nous nous rendrons dès ce soir à bord. John Jarvis, mis au courant de cette proposition, elle accepta avec enthousiasme. Chapitre 4. Le mariage de Rosie. À la côte de Cliff House est un des endroits les plus aimés des habitants de San Francisco qui s'y rendent en foule le dimanche, soit en chemin de fer, soit en auto, en traversant le parc, semblable par la magnificence de ses frondaisons à quelques coins de forêt équatoriale. En semaine, la plage est presque déserte et présente un aspect d'une sauvagerie grandiose. Des dunes stériles où le vent du large soulève des tourbillons de sable, des rocs escarpés d'un rouge sombre, d'un jaune violent, et dans le lointain, les crêtes déchiquetées et violettes de la chaîne des Coast Range forment un cadre sublime à l'immensité majestueuse du Pacifique. Une des curiosités de Cliff House, ce sont ces trois îlots autour desquels il est rigoureusement interdit de pêcher ou de chasser. Par une convention tacite, les oiseaux de mer occupent le récif du milieu et les phoques les deux autres. Par-dessus les vastes horizons de ce paysage, le soleil levant venait d'apparaître dans l'azur intense et doux d'un ciel sans nuages qui se reflétait dans les eaux calmes du Pacifique. On n'entendait que le bruissement du ressac sur les galets du rivage et les cris discordants des oiseaux de mer. L'îlot qu'ils occupaient ressemblait de loin, tant ils étaient nombreux et pressés, à une mouvante draperie de soie, d'un gris délicatement rosé, d'un blanc glacé de mauve ou de bistre. Leurs variétés étaient d'une infinie diversité. Depuis les gracieuses alouettes de mer, les mouettes, les courlis, les pélicans, les pétrels, les cormorans, les frégates, jusqu'aux albatros géants auxquels leurs vastes ailes permettent de faire le tour du monde. Par centaines, par milliers peut-être, les phoques formaient un groupe aussi intéressant, avec leurs têtes à longues moustaches presque humaines d'expression et leurs longues dents blanches. Ils jouaient, s'ébattaient dans l'eau avec de brefs aboiements, se hissant parfois péniblement sur les rochers luisants d'algues brunes. Leur pelage mouillé apparaissait d'un gris foncé, puis, séché au soleil pendant qu'ils dormaient sur les écueils, devenait d'un brun fauve, leur donnant une vague ressemblance avec des lions. C'est à un demi-mille de ces écueils qu'était mouillée la goélette du capitaine Morton, dont la fine mâture se découpait légèrement sur l'horizon. À une certaine distance, sur un roc isolé, presque à fleur d'eau, deux grands phoques paraissaient dormir. Un observateur eut remarqué que leurs congénères évitaient de les approcher, et même s'éloignaient craintivement de l'endroit qu'ils occupaient. Le paysage cependant s'animait, et se peuplait petit à petit. Quelques jeunes gens en complet de couti ou de tussor, quelques ladies, armées de vastes ombrelles aux vives couleurs, parurent d'abord sur la plage. Puis des cabines installées derrière les dunes, tout un essaim de jeunes filles en tenue de bain, s'avancèrent vers la mer. Rosie était parmi elles, vêtue d'un costume bleu foncé qui, bien que très ample, suivant les règles de la pudeur américaine, ne dissimulait qu'imparfaitement la sculpturale richesse de ses formes. La jeune fille paraissait profondément émue, et son trouble, la tristesse, n'échappèrent pas au regard vigilant de sa mère. « Petite Rosie, lui dit-elle tout bas, comme tu as l'air mélancolique. Ah, pourquoi n'as-tu pas voulu me confier tes chagrins ?» La jeune fille ne répondit pas. Ses yeux étaient gonflés de larmes qu'elle retenait à grand-peine. Une petite embarcation montée par un seul homme venait de doubler une pointe de rocher et se dirigeait lentement vers l'îlot des phoques. On eût dit que Rosie avait attendu l'arrivée de cet esquif. « Au revoir, mère chérie, » balbutia-t-elle en embrassant Madame Grice avec une ardeur désespérée. « Qu'a-t-elle donc aujourd'hui, mon Dieu ? Jamais je ne l'ai vue ainsi !» se dit la mère avec inquiétude. « Pourvu qu'elle ne prenne pas quelque funeste résolution, nous aurions dû la laisser agir à sa guise. » Rosie, cependant, avait tout de suite trouvé assez de profondeur et s'éloignait en nageant à grandes brasses régulières. Au moment où elle entrait dans l'eau, un nageur s'était détaché d'un groupe de jeunes gens qui prenaient leur bain à 100 mètres de l'emplacement réservé aux dames et avait pris la même direction que la jeune fille. Bientôt, ils se trouvèrent l'un près de l'autre. Ils étaient maintenant si loin du rivage que personne n'eût été capable de les rejoindre. Visiblement, ils cherchaient à atteindre l'embarcation qui, peu à peu, s'était rapprochée d'eux. « Reviens donc, Rosie !» lui criaient ses compagnes. « Elle veut donc se suicider !» dit l'une d'elles. « Quel est l'homme qui l'accompagne ?» fit une autre. Insensible à ses appels, Rosie, soutenue par son compagnon, continuait à nager vers la barque sans regarder en arrière. « Ma fille est perdue !» s'écria tout à coup Madame Grice. Et elle tomba évanouie. Rosie, qui n'avait rien pu voir de cette scène, venait d'atteindre la barque et d'y prendre place. L'homme de la barque, Dad, en personne, tira d'un paquet un surplis de ministre et s'en revêtit. Il alluma gravement un bout de cierge, ouvrit la Bible, après avoir ordonné aux deux fiancés de s'agenouiller au fond de la barque. Du rivage partaient des cris d'indignation et des rires. Dad avait commencé à marmotter quelques prières, avec les grimaces simiesques qui lui étaient habituelles, quand une balle siffla à son oreille en même temps qu'une voix si sonore qu'elle s'entendit du rivage, criait « Haut les mains !» À la place des deux phoques immobiles sur le rocher, Floridor et le capitaine Rampal se dressaient maintenant le Browning au poing. En même temps, au bruit du coup de feu, une yole jusque-là masquée par la carène de la goélette venait d'apparaître. À la barre, se tenait John Jarvis. En entendant siffler la balle, Dad s'était laissé tomber au fond de la barque comme s'il eût été atteint. Walker en avait fait autant. Frissonnante, dans ses vêtements trempés, rouge de honte et d'épouvante, la pauvre Rosie demeurait à genoux entre les deux bandits. « Haut les mains !» répéta le Canadien. Au lieu d'obtempérer à cet ordre, et avant qu'on ne pût prévoir ce qu'il allait faire, Dad frappa Miss Rosie d'un coup de couteau en pleine poitrine et la poussa dans la mer. « Misérable !» murmura Walker. « C'était notre seule chance de salut !» grommela le bandit. « Pendant qu'ils vont la repêcher, nous filerons !» D'un même mouvement instinctif, Floridor et le capitaine Rampal s'étaient jetés à l'eau pour essayer de sauver la jeune fille. Profitant de ce répit, Walker et Dad, toujours vêtus de son surplis, avaient empoigné chacun un aviron et ramé de toutes leurs forces. À peu de distance, la yole de John Jarvis volait littéralement sur les eaux. En apercevant quelques petites vagues encore rouges qui marquaient l'endroit où avait disparu la pauvre Rosie, le détective se débarrassa rapidement de ses vêtements et, à son tour, s'élança dans la mer. 20 fois, les trois hommes plongèrent inutilement. Enfin, John Jarvis reparut soutenant le cœur de la jeune fille, dont une large tache de sang éclaboussait la poitrine pâle et ferme comme un marbre. Ses yeux étaient clos et son visage livide. On la déposa avec précaution dans la yole. « À terre !» ordonna le capitaine. « Mais les bandits ?» demanda Floridor. « Avant tout, il faut sauver Miss Rosie. » On le voit, Dad avait calculé juste. Quand la yole put enfin se lancer à sa poursuite, lui et son complice avaient abordé depuis longtemps et, abandonnant leur canot, s'étaient enfoncés dans l'intérieur. Miss Rosie n'était pas morte, mais ce ne fut qu'après plusieurs heures de soins qu'on put la ranimer. Encore, les médecins déclarèrent-ils qu'ils ne pouvaient répondre de la blessure qui avait effleuré l'artère aorte et pénétré dans le poumon gauche.